C'était l'Europe face à la recherche médicale sur l'embryon humain. Mais moi, je vais vous parler de l'embryon et de la recherche, de l'embryon humain et de la recherche. Pas tellement de l'Europe, mais de tout ce qu'on peut, tout ce qui se passe actuellement, de tout ce qui s'est passé, du cadre dans lequel on fait de la recherche sur l'embryon, on va faire de la recherche sur l'embryon et pourquoi. Alors, j'aimerais quand même bien avoir le support. Si c'est très long, je démarre, sinon on attend un petit peu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se destinent à faire médecine, qui vont passer le PCEM1? Il y en a? Levez la main, ceux qui vont. Ah, très bien. Donc, vous allez l'année prochaine avoir un nouveau programme. Vous savez, hein, tout a été remanié. Mais finalement, c'est plutôt bien, puisque les anciens auront à faire face à un nouveau programme. Donc, vous serez sur le même plan. On a une chance de... D'accord. Très bien. Bien, donc, pourquoi est-ce que le problème de la recherche sur l'embryon s'est fait jour? Eh bien, tout simplement parce que maintenant, l'embryon humain est accessible. Accessible à la vue, accessible à la manipulation, puisque se sont développées les techniques de fécondation in vitro. Jusque dans les années 70-80, l'embryon humain, il vivait sa vie dans la trompe, dans l'utérus, et il n'était absolument pas accessible au regard. Et puis s'est développée la fécondation dite extracorporelle, c'est-à-dire cette technique qui a permis de traiter d'abord les stérilités tubaires en prélevant les gamètes, ovocytes, spermatozoïdes, en organisant leur rencontre in vitro, et à partir de là, bien le début du développement embryonnaire dans l'espèce humaine, comme cela avait été possible dans les espèces animales, est devenu apparent. Et donc, bien sûr, l'embryon humain était accessible au regard, à l'analyse. Alors ?
Je vais vous demander votre clé USB et on va la tester. Voilà. Une question de version aussi.
Alors, c'est la version classique, elle passe partout. C'est la version 97-2003 de PowerPoint, il n'y a vraiment aucun souci. Et donc, dans un premier temps, aucun encadrement, aucune législation n'était bien sûr à l'œuvre. Et tous les biologistes de la reproduction, nous avons travaillé avec les gamètes, avec l'embryon humain, et nous avons fait de la recherche sans demander, sans avoir de comité, d'éthique, d'agence, de la biomédecine qui régule et encadre notre activité. Et ça nous a permis de préciser beaucoup des éléments du début du développement embryonnaire dans notre espèce. Alors vous allez me dire, mais c'était vraiment la peine, puisqu'on avait toute l'expérimentation animale derrière nous, quel était le besoin de faire une recherche chez l'humain? Eh bien, certes, il y a des très grands principes conducteurs qui font que les espèces utilisent des mécanismes généraux qui sont les mêmes, mais elles utilisent aussi des mécanismes plus fins qui leur sont spécifiques. Et ce qui est vrai pour l'embryon de souris, ce qui est vrai pour l'embryon de bovin, ne l'est pas forcément pour l'embryon humain. Et donc, il a fallu à chaque fois adapter et comprendre. Et d'autre part, dans notre espèce, il y a beaucoup plus d'erreurs du début de la fécondation et du développement que dans les autres espèces. Et là aussi, il fallait comprendre pourquoi un grand nombre des embryons humains ne s'implantaient pas. Et donc, petit à petit, on a accumulé un corpus de connaissances. Mais petit à petit aussi, cette activité est devenue importante. Elle s'est adressée à un grand nombre de patients. Elle a donné lieu à beaucoup de débats, parfois aussi de fantasmes, de dérives, et elle a été très particulièrement encadrée par ce qu'on a appelé la loi bioéthique, dont la première formule a été prise en 1994. Et là, les choses étaient très claires, la recherche sur l'embryon est devenue interdite. Interdite, sauf pour d'exceptionnelles études, études ne portant pas atteinte à l'intégrité de l'embryon. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire qu'on pouvait le regarder, qu'on pouvait étudier éventuellement le milieu dans lequel il baignait, mais rien d'autre, puisqu'il ne fallait en aucun cas lui porter atteinte. Et donc, la recherche sur l'embryon en France s'est pratiquement interrompue. Et après de longues années, puisque la loi de 94, la loi de bioéthique de 94, qui, vous le savez, devait être révisée au bout de 5 ans, ne l'a été finalement qu'en 2004. Et en 2004, certains aménagements ont été possibles. Bon, je vais attendre maintenant peut-être qu'on ait... enfin, le diaporama qui s'installe. Mais vous pouvez l'éteindre.
Oui, ça ne sert à rien. Ça
va être allumé de toute façon. Oui, ça ne sert à rien. Donc, tout d'abord, dès qu'on va avoir, dès que ma clivère va revenir, que la technique va enfin daigner nous être favorable, je vais dans un premier temps vous présenter l'objet du débat, c'est-à-dire vous faire un bref rappel de ce que c'est que l'embryon humain, comment il est conçu in vitro et comment il se développe dans cette première partie qui se situe entre la fécondation et l'implantation, c'est-à-dire entre le premier jour du développement et le septième jour qui est celui où il va s'implanter dans la muqueuse de l'utérus. Et cette période du développement d'embryon, on l'appelle l'embryon préimplantatoire. Voilà, on a retrouvé la technique. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant cette première semaine ? Eh bien, un certain nombre d'événements tout à fait capitaux. D'une part, les segmentations de cette cellule unique qu'est l'œuf fécondé et qui va petit à petit diviser son cytoplasme pour former l'embryon. Il va se passer un événement tout à fait important qui est l'activation du génome embryonnaire. Au début, l'embryon va vivre sur les réserves en protéines, les réserves en acides aminés, les réserves en ARN messager maternel, qui se trouve dans le cytoplasme de l'ovocyte, et à partir d'un certain stade qu'on verra, il va fonctionner par lui-même, il va pouvoir fabriquer lui-même ses propres protéines, son génome va pouvoir s'exprimer. Et c'est ce qu'on appelle l'activation. Et puis ensuite, il va y avoir une différenciation en plusieurs types cellulaires, et tout d'abord, à la fin de cette première semaine, en deux types cellulaires particulier, l'un qui va permettre l'implantation, c'est le trophectoderme qui va donner le placenta, et l'autre qui va permettre la formation du fœtus à partir des cellules de ce qu'on appelle le bouton embryonnaire. Alors, comment ça se passe en pratique ? Dans un laboratoire d'assistance médicale à la procréation, on est au premier jour, et on va organiser la rencontre des gamètes. Cette rencontre, elle va pouvoir se faire de deux manières. Soit tout simplement au cours d'une fécondation in vitro, et on va préparer les spermatozoïdes qu'on aura récupérés, qu'on aura préparés, c'est-à-dire débarrassés de leur plasma séminal qui ne leur permet pas de féconder. Et on va les mettre en présence de l'ovocyte
que vous voyez là entouré de toutes ces cellules qui sont les cellules du cumulus et de la granulosa qui forment les cellules périovocytaires. Et on va laisser, dans cette fécondation in vitro conventionnelle, les spermatozoïdes faire leur office et l'un d'entre eux va, dans cette image en microscopie électronique de balayage, vous voyez des spermatozoïdes à la surface de la zone pellucide. L'un d'entre eux va pénétrer et quand il aura pénétré à travers les enveloppes de l'ovocyte, la zone pellucide, la membrane plasmique, il va y avoir une réaction qui va empêcher les autres spermatozoïdes de pénétrer, garantir une fécondation normale, un spermatozoïde, un ovocyte, et on laisse la nature, si l'on peut dire, puisqu'on est quand même dans une fécondation extracorporelle, se dérouler. La deuxième technique, c'est l'ICSI, qui veut dire injection d'un spermatozoïde à l'intérieur du cytoplasme de l'ovocyte. Alors là, on va préparer les spermatozoïdes de la même manière, mais grâce à un ensemble de micromanipulations que vous voyez là, avec des micropipettes, on va prélever un spermatozoïde qu'on va aspirer à l'intérieur de cette pipette, vous le voyez ici. Et ce spermatozoïde, on va l'introduire à l'intérieur de l'ovocyte. Alors pourquoi ? Eh bien parce que 50% des stérilités humaines sont d'origine masculine ou à participation masculine. Et quand les spermes sont très déficients, quand les spermatozoïdes sont très déficients, eh bien la fécondation ne peut pas se faire normalement. Le spermatozoïde n'est pas capable de traverser les enveloppes de l'ovocyte. Et avec cette pipette, on va tout simplement traverser ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la zone pellucide, la membrane plasmique, et déposer le spermatozoïde à l'intérieur du cytoplasme de l'ovocyte. Ici, vous remarquez la pipette de maintien qui permet, en créant un vide, de bien maintenir l'ovocyte pour qu'il ne roule pas. Et vous voyez ici le globule polaire qui témoigne que cet ovocyte est bien mature, qu'il a donc 23 chromosomes à l'intérieur du cytoplasme et 23 chromosomes dans le globule polaire. Il est donc haploïde. Et à la fin de cette première journée, on va mettre les gamètes au chaud, à l'étuve, où va se dérouler toute la culture, c'est-à-dire qu'en gros, on reconstitue au laboratoire un environnement qui simule ce qui se passe in vivo, même température, 37 degrés, même absence d'éclairage, même pH, même milieu nutritif, qui sont nos milieux de culture. Tout cela permet aux gamètes et à l'embryon qui va se former d'être le plus dans des conditions physiologiques possibles, même si elles ne sont pas totalement les conditions physiologiques. Et lorsque on observe ces ovocytes, 16 à 18 heures après l'insémination ou la micro-injection, ou ICSI, si tout s'est bien passé, on va voir le zygote ou ovocyte fécondé. Et vous voyez toujours notre ovocyte. Alors, tiens, je vous pose une question. Vous croyez que c'est une fécondation de quel type ? Conventionnelle ou micro-injection, à votre avis ? Observez, regardez. Alors, ceux qui sont pour une fécondation in vitro conventionnelle, levez la main. Ceux qui sont pour une micro-injection, levez la main. Alors, vous voyez là, ce sont les spermatozoïdes fixés sur la zone pellucide. Donc, c'est une fécondation in vitro conventionnelle, puisqu'on a bien des spermatozoïdes qui se sont fixés à la zone pellucide et l'un d'entre eux a pénétré. Et on voit ici le témoin de la fécondation, c'est-à-dire les deux pronoyaux ou pronucléus, donc les deux pronucléi. Ils sont accolés, apposés l'un contre l'autre. Ils ont des nucléoles à l'intérieur. Et vous voyez qu'il y en a un qui est un petit peu plus petit, celui-ci. En général, le pronucléus femelle est toujours un tout petit peu plus petit que le pronucléus mâle. Ces deux pronucléi ne vont jamais fusionner. Ils vont rester apposés et à peu près vers 20h, 22h, les chromosomes vont s'individualiser. Le fuseau de première division mitotique va se former et on va assister au premier clivage, à la première division de ce nouvel individu qui est le zygote. Alors, il arrive que la différence de taille soit beaucoup plus importante. Et si on a une différence de taille de 10 microns ou plus, eh bien, on sait, parce que des recherches ont été faites, parce que des études ont été menées, on sait que c'est de très mauvais signes. On sait que seuls 13% des embryons qui résultent de tels zygotes ont un équipement chromosomique normal et sont donc euploïdes. Et bien évidemment, pour savoir cela, il a fallu sacrifier des zygotes, il a fallu sacrifier et faire une technique invasive qui permet d'étudier l'équipement chromosomique et de dire, eh bien voilà, quand on a cette anomalie très importante de taille, ces embryons-là sont majoritairement anormaux et de là découle une attitude pratique dans la fécondation in vitro qui est de dire, eh bien, ces zygotes-là, ces embryons-là, on ne les transférera pas parce qu'ils sont susceptibles, dans la majorité des cas, de donner un embryon anormal. Et donc, le premier clivage a lieu et va résulter en deux cellules ou blastomères, en général de taille similaire, et ça se passe 25 à 30 heures après l'insémination. À ce stade, chaque blastomère est totipotent, c'est-à-dire que chaque blastomère a la possibilité de redonner un individu entier, de redonner un embryon et un embryon qui sera capable de redonner toutes les cellules capables de former le fœtus et le placenta. C'est cela qu'on appelle la totipotence. Puis ensuite, il va y avoir division en quatre cellules et vous voyez ici des embryons humains qui, comme les autres embryons de mammifères, au stade 4 cellules, ont une organisation pyramidale. Vous voyez qu'il y a toujours un blastomère qui est au-dessus, pas dans le même plan que les trois autres. Et c'est dû au fait que les divisions se font, pour la deuxième division, dans deux plans différents, ce qui va donner cette organisation spatiale caractéristique. À ce stade encore, les blastomères sont totipotents. Chaque blastomère est capable de redonner un blastocyste complet avec les cellules qui donneront le placenta, les cellules qui donneront le fœtus. Eh bien, ceci, c'est une information que l'on avait chez l'animal, mais que l'on n'avait pas chez l'humain. Et tout récemment, il y a une quinzaine de jours, dans une revue européenne, est paru un papier d'une équipe belge où la recherche sur l'embryon est autorisée, on a le droit de créer des embryons pour la recherche et avec des ovocytes donnés, des spermatozoïdes donnés, ils ont pu obtenir des embryons à ce stade. Ils ont séparé chacun des blastomères, ils les ont réintroduits dans une zone pellucide vide et ils les ont laissés en culture. Et les blastomères ont repris leur développement. Ils ont rattrapé le temps perdu, c'est-à-dire que chronologiquement, ils ont été plus vite qu'ils n'auraient dû pour se resynchroniser avec le blastomère d'origine. Et ils ont pu montrer, en particulier sur un embryon, que chacun des blastomères était capable de redonner un blastocyste avec les deux types cellulaires dont j'ai parlé. Et donc, il y avait bien totipotence des quatre blastomères. Donc, vous voyez, ça, c'est tout récent. C'est un exemple des connaissances fondamentales sur l'embryon de notre espèce qu'on peut obtenir à partir de la recherche sur l'embryon. Et puis, de cet embryon au stade 4 cellules, on va passer au troisième jour à un embryon à 8 cellules. Et là se situe l'élément important dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'activation du génome embryonnaire. Elle se fait entre le stade 4 et le stade 8. Eh bien, cette activation, elle n'a pas du tout lieu au même moment dans les différentes espèces. Chez la souris, elle a lieu entre 1 et 2 cellules. Dans notre espèce, entre 4 et 8 cellules. Chez les ovins et les bovins, entre 8 et 16 cellules. Et c'est parce qu'on a étudié et fait des recherches sur l'embryon, en sacrifiant un certain nombre d'embryons, qu'on a pu mettre en évidence ce moment tout à fait capital de l'activation génomique. De temps en temps, ça ne se passe pas bien, c'est-à-dire que l'embryon, au lieu de continuer à se développer normalement, se fragmente. Et il est très important pour nous de pouvoir apprécier la qualité embryonnaire, parce que bien sûr, un embryon qui est comme celui-là, totalement fragmenté, ne va pas s'implanter, ne donnera jamais de bébé, et donc ce n'est pas la peine de le transférer dans l'utérus. Et donc un des gros travaux au laboratoire de biologie de la production, c'est de pouvoir repérer la qualité embryonnaire avec les éléments que nous avons à notre disposition, c'est-à-dire la morphologie, c'est-à-dire la cinétique, la chronologie, la régularité des divisions, et de pouvoir choisir les embryons les plus susceptibles d'être viables pour être transférés. Et donc, bien évidemment, là, il y a tout un champ de recherche absolument nécessaire pour améliorer les résultats de l'AMP. Si on continue in vitro le développement, on peut s'arrêter au 2e jour, on peut s'arrêter au 3e jour et transférer l'embryon dans l'utérus. Il va rester un moment dans la cavité utérine, comme il reste in vivo, et il s'implantera 3 jours plus tard. Mais on peut continuer le développement en culture, et au 4e jour, eh bien, on va voir apparaître la morula. Vous voyez que là, cette fois, les blastomères ne sont plus du tout séparés, ils se sont compactés, et ça forme cette petite mûre. Au 5e jour, on commence à voir apparaître des plages de liquide. C'est le début du blastocyste, qui est cette fois cet embryon avec la différenciation cellulaire qui s'est opérée. Vous voyez ici le bouton embryonnaire. C'est donc un amas de cellules particulières qui va donner le fœtus, qui va contenir les cellules souches embryonnaires. Vous avez cette sphère qu'est l'embryon, s'est creusée d'une cavité, la cavité blastocélique qui contient un liquide, le fluide blastocélique, et elle est tapissée par des cellules qui forment comme un feston tout autour, et c'est ça le trophectoderme qui va donner le placenta. Et donc, jusque-là, l'embryon avait toujours la même taille. Il ne s'était pas développé, il s'était simplement fragmenté, divisé. Le cytoplasme s'était divisé en cellules de plus en plus petites. À partir de là, il commence à augmenter de taille. Sa zone pellucide devient très fine et il va éclore. Il éclot à environ l'après-midi du 6e jour et à ce moment-là, il va pouvoir s'implanter. Donc voilà l'embryon in vitro, l'embryon de recherche, c'est celui qui se développe entre J0 et J7. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme recherche sur l'embryon humain ? Mais d'abord, on a toutes les techniques dont je vous ai déjà parlé, qui ne sont pas invasives, qui ne vont pas détruire l'embryon. C'est ce que le législateur a appelé les études sur l'embryon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut étudier le comportement de l'embryon dans son milieu de culture. Par exemple, comment il respire. Il y a des appareils de mesure qui vont mesurer la consommation en oxygène. On va étudier la manière dont il dégrade les éléments du milieu de culture qui sont à son contact, c'est la métabolomique. Et tout ceci va renseigner sur la manière dont se comporte l'embryon. Alors, pour vous donner un exemple, récemment, des auteurs ont mis au point une technique d'analyse de la consommation par l'embryon des acides aminés dans le milieu de culture. Eh bien, ils se sont aperçus que s'il avait une consommation très faible, c'était mauvais signe. Ça voulait dire que cet embryon allait petit à petit dégénérer. S'il avait une consommation très importante, c'était également mauvais signe. Ça voulait dire qu'il était en train de s'épuiser, de halter, d'essayer à tout prix de combattre l'effet du début de la dégénérescence et il n'allait pas y arriver. Et donc il fallait qu'il ait une consommation régulière et tranquille, hein, l'embryon zen, le quiet embryo, comme l'ont appelé nos collègues anglo-saxons, pour qu'il soit considéré comme normal. Donc vous voyez que toute cette recherche, elle est très importante, elle ne porte pas atteinte à l'embryon, elle étudie son environnement et peut-être qu'elle va déboucher sur des systèmes de mesure, des systèmes d'analyse qui nous permettront peut-être très rapidement dans la journée de savoir quels sont les embryons viables de qualité qu'on transférera préférentiellement. Alors, il peut y avoir aussi des recherches semi-invasives, c'est-à-dire qu'on va simplement prélever quelques cellules de l'embryon. Vous connaissez déjà cette technique qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire qui prélève un blastomère d'un embryon, l'analyse pour rechercher une anomalie génétique et ne transférer que les embryons sains. Mais là, on pourrait prélever quelques cellules, peut-être même au stade blastocyste, donc quelques cellules du trophectoderme, et les analyser, mais cette fois non pas pour rechercher une anomalie génétique, mais les analyser pour faire un profil de l'embryon, puisqu'on a maintenant des techniques modernes qui permettent d'étudier l'expression des gènes, d'étudier le contenu en protéines, c'est ce qu'on appelle la transcriptomique, la protéomique, on appelle ça de façon un peu ironique les omiques. Mais des auteurs australiens ont réalisé une étude très élégante. Ils ont, avec l'approbation de leur comité d'éthique, ils ont prélevé quelques cellules d'embryons au stade de blastocyste qui étaient transférées dans l'utérus. Ils ont ensuite, lorsqu'il y avait une grossesse et qu'il y avait une naissance, prélevé quelques cellules, fait une prise de sang, de l'enfant né. Et ils ont réalisé les empreintes génétiques, ce qui leur a permis de savoir exactement de quel blastocyste était issu l'enfant. Et en analysant les cellules du blastocyste, ils ont pu ainsi faire la différence entre le profil d'expression génique des blastocystes qui n'avaient pas évolué et de ceux qui avaient donné un enfant à terme. Et ils ont mis en évidence 7000 gènes différents, qui étaient caractéristiques des embryons viables. Alors bien sûr, on est loin encore de pouvoir avoir comme ça un petit profil, une petite carte d'identité qui nous dirait dans la journée, cet embryon-là est celui qui est capable, qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir devenir un adulte, un enfant, et l'autre est absolument pas capable de se développer. Mais on progresse dans ce sens d'essayer d'être au plus près de la qualité embryonnaire. Et puis, il y a toutes les recherches invasives. Alors là, il y a deux champs de recherche. Il y a d'une part celles qui vont se faire sur l'embryon. Donc, qui vont étudier l'embryon en entier pour faire avancer les connaissances sur le début du développement embryonnaire et pour, comme je vous l'ai dit, améliorer nos résultats. Et donc, ce ne sera pas, bien sûr, au bénéfice direct de cet embryon-là, puisque lui, il va être détruit, mais ça sera au bénéfice indirect de tous les autres embryons et des couples qui sont en assistance médicale à la procréation. Alors, vous voyez que en 2005, en France, il y a eu 233 563 embryons créés dans les laboratoires de fécondation in vitro, puisque nous faisons un rapport annuel très précis, très détaillé à l'Agence de la biomédecine, et donc à la fin de l'année, on est capable de dire très exactement le nombre d'embryons qui ont été traités, produits dans les laboratoires français. 88 868 embryons ont été transférés in utero, et 10 928 enfants sont nés. Et il y a eu 51 206 embryons qui ont été congelés parce qu'ils étaient de qualité suffisante. Donc, croyez-moi sur parole, j'ai fait les calculs, ça veut dire qu'il y a 40% des embryons qui n'étaient pas utilisables, c'est-à-dire dont la qualité était tellement mauvaise qu'elle ne permettait ni de les transférer in utero, ni de les congeler. Et 12% seulement des embryons qui ont été transférés in utero étaient viables. Donc vous voyez qu'on a beaucoup encore de connaissances à acquérir. Le deuxième champ de recherche invasive, c'est celle qui vont se faire sur les cellules qui sont issues de l'embryon et qu'on appelle les cellules souches embryonnaires, dont vous avez très très largement entendu parler, qui sont cette fois pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de redonner tous les tissus de l'embryon, mais elles ne sont pas capables de redonner le placenta. Et ces cellules, elles sont à l'origine de ce qu'on espère être une médecine régénérative, c'est-à-dire une médecine créatrice de tissus, de cellules nouvelles, de rechange, lorsqu'il y a une lésion ou lorsqu'il y a dégénérescence cellulaire. Vous le voyez, la première dérivation de cellules souches embryonnaires humaines à partir du bouton embryonnaire d'un embryon humain, c'était en 1998 aux États-Unis. Mais dans ce type de recherche, l'embryon n'est plus que la source de cellules. Et il y a bien sûr des travaux très fondamentaux qui se font à partir de ces cellules souches embryonnaires sur la différenciation cellulaire, sur le début du développement embryonnaire, mais la plupart des travaux sont bien sûr à visée thérapeutique, essayer de différencier des lignées cellulaires dont on pourra avoir besoin en thérapeutique. Alors, dans le bouton embryonnaire que vous avez vu tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, le blastocyste, vous avez le bouton embryonnaire ou masse cellulaire interne qui est là, eh bien, ce bouton embryonnaire... Il va y en avoir d'autres ?
Une deuxième.
Tout de suite ?
Dans 5 minutes.
Ah mon Dieu. Ça vous fait ça tous les jours ? Oh. Donc, lorsque l'on retire ce bouton embryonnaire et qu'on le met en culture, il va former des amas qu'on appelle les corps embryoïdes. Et si on repique ces corps embryoïdes en culture, eh bien, on va avoir développement de cellules particulières qui sont des cellules souches, c'est-à-dire qu'elles ont la propriété de se renouveler indéfiniment, c'est ce qu'on appelle l'auto-renouvellement, et également la possibilité de se différencier en cellules spécialisées dès lors qu'elles reçoivent certains signaux spécifiques. Et les cellules souches embryonnaires, eh bien, elles sont tout à fait capables de proliférer indéfiniment dans certaines conditions, on peut les garder des années, les multiplier. Et si on les met en présence de facteurs de croissance particuliers ou de facteurs spécifiques, eh bien, elles vont pouvoir se différencier dans les trois lignées endoderme, mésoderme, ectoderme, et ensuite, elles vont pouvoir donner la plupart des 200 types cellulaires qui nous composent. Alors, quels embryons humains seront disponibles pour la recherche ? Mais d'abord, les embryons qu'on appelle surnuméraires de l'assistance médicale à la procréation, c'est-à-dire les embryons qui n'ont plus de projet parental. Et on va y revenir. Ensuite, les embryons issus du diagnostic préimplantatoire et qui sont porteurs d'une anomalie qu'on ne va donc pas transférer. Alors vous me direz, mais ils sont porteurs d'une anomalie, justement. Ils sont porteurs d'une anomalie et donc si on peut dériver des cellules, des lignées cellulaires à partir de ces embryons, c'est la possibilité d'avoir des cellules tout à fait particulières pour étudier pourquoi ils sont porteurs de cette anomalie. Quelle thérapeutique on peut faire, quels médicaments éventuellement pourraient être actifs pour corriger le défaut. Et puis, on a également à disposition les embryons qui sont tout simplement les embryons non viables de l'assistance médicale à la procréation, soit parce qu'ils n'avaient qu'un seul pronucléus, ils étaient donc haploïdes, c'est une parthénogenèse, soit parce qu'ils en avaient trois, ils étaient triploïdes, ils avaient été fécondés par deux spermatozoïdes, soit parce qu'ils étaient gravement fragmentés et donc ils ne sont pas utilisés en thérapeutique, ils pourraient donc servir à la recherche. Alors, en moyenne, les embryons surnuméraires sans projet parental représentent quand même l'immense majorité des embryons qui sont utilisés actuellement pour la recherche. Alors, en moyenne, il y a 10 ovocytes recueillis à chaque fécondation in vitro. Ça va donner en moyenne 5 embryons. Il y en a un ou deux qui seront transférés parce que, bien évidemment, on ne va pas vouloir faire de grossesses multiples importantes, ce qui est très préjudiciable au devenir des enfants et à la qualité de la grossesse. Et donc, on va transférer un ou deux embryons. Donc, il restera en moyenne, à chaque tentative, 3 ou 4 embryons que l'on pourra éventuellement congeler. Que deviennent ces embryons congelés dans le cadre de la législation française? Eh bien, heureusement, l'immense majorité sont utilisés par les couples pour faire un autre enfant, s'ils ont obtenu un premier enfant, ou pour revenir et faire une tentative sans toute la charge de la stimulation ovarienne, puisqu'il y a des embryons disponibles. Donc, on a juste à suivre le cycle et à faire un transfert de ces embryons décongelés. Et ils pourront aussi, s'il y a eu une fausse couche,